Les matins débutent avec le journal de Bénédicte Robin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Marseille s'engage dans une course contre la montre et contre le variant anglais du Covid. Les marins-pompiers sont mobilisés. Nous serons à Marseille dès le début de ce journal.
Les premières doses du vaccin Moderna arrivent aujourd'hui en France alors que s'ouvre une semaine décisive sur le front de l'épidémie. S'il doit y avoir un effet fête de fin d'année, eh bien on le saura dans les prochains jours.
Vers une procédure de destitution du président Trump aux États-Unis, les démocrates mettent la pression 5 jours après les événements au Capitole et à moins de 10 jours de la passation de pouvoir. 600 000 canards déjà abattus en France depuis décembre. La grippe aviaire est incontrôlable. Témoignage d'un éleveur impuissant dans les Landes. Et puis nous irons aussi dans l'océan sud-ouest austral à la recherche de CO2. La question du jour, Guillaume, ce matin.
Eh bien, ça sera dans une dizaine de minutes, Bénédicte. Donald Trump face aux réseaux sociaux, les plateformes censure ou régulation. Je poserai la question à Maud Kessar, elle est directrice du domaine Espace Euratlantique à l'IRSEM.
L'inquiétude à Marseille, selon les mots du maire socialiste Benoît Payan, où chaque minute compte pour tenter d'endiguer la propagation du variant britannique du Covid. Bonjour Olivier Martoc.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Marseille. Au moins 8 cas ont été identifiés, un foyer de contamination au sein d'une même famille. Et depuis, l'inquiétude grandit.
Oui, alors vous vous rappelez, un vendredi à l'annonce du couvre-feu à 18h, les élus marseillais étaient furieux et l'avaient fait savoir fortement, car ici il y a peu de patients en réanimation dans les hôpitaux, 34 hier, un chiffre stable depuis une semaine, et puis le taux d'incidence à 225 est juste au-dessus du seuil d'alerte fixé par le gouvernement. Mais le ton, vous l'avez dit, a totalement changé au cours du week-end, avec un premier cas de Covid variant anglais dans un cluster familial, un parent venu de Londres pour les vacances, 45 cas contacts identifiés. Et puis après une série de tests hier, dimanche, déjà 8 porteurs du variant identifiés sur la ville. C'est beaucoup et ce matin, on ne va pas parler de panique des autorités, mais la situation est désormais jugée très, très sérieuse à Marseille.
Et donc à Marseille, ce sont les marins-pompiers qui sont mobilisés. Ils sont chargés d'identifier les cas et les lieux où le virus circule.
Voilà, Marseille a développé depuis le mois d'octobre un dispositif unique dans le monde d'analyse des eaux usées dans tous les quartiers de la ville. Ces prélèvements quotidiens permettent de prévoir 7 jours à l'avance par rapport à une série de tests PCR ciblés les données épidémiologiques d'un secteur, voire d'un immeuble. Le bataillon des marins-pompiers vient de mettre en place ce matin un véritable plan de bataille. 2 équipes d'intervention mobile biologique vont poursuivre les analyses dans les arrondissements proches du cluster. C'est ce travail de fourmi qui a permis de localiser dans un immeuble des arrondissements des quartier sud, les 7 autres personnes atteintes de ce virus. 40 pompiers complètent ces analyses par des tests PCR ciblés dans les zones suspectes. Marseille, vous l'avez compris et vous l'avez dit, essaie de stopper l'extension de l'épidémie via ce virus mutant.
Olivier Martoc, en direct de Marseille pour France Culture. En dehors de cette situation marseillaise, un cas de contamination au variant anglais a été détecté dans les Alpes de Haute-Provence. Une vaste opération de dépistage est menée depuis ce week-end à Bagneux dans les Hauts-de-Seine après la découverte d'un foyer de contamination. Une campagne massive commence aujourd'hui à Roubaix dans le Nord. La semaine s'annonce décisive et le gouvernement le sait. Les conséquences du réveillon du Nouvel An, des retrouvailles familiales s'il doit y en avoir, sont attendus dans les prochains jours. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se refuse pour l'heure à parler de reconfinement ou de durcissement. On en reste pour le moment aux 23 départements avec couvre-feu avancé à 18h. C'est en tout cas aujourd'hui que les premières doses du vaccin de Moderna, plus facile à conserver, arrivent en France. 50 000 doses attendues cette semaine qui vont être dirigées vers les régions les plus touchées, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, et PACA. 2 vaccins donc pour tenter d'accélérer encore la campagne. À peine plus de 100 000 personnes ont déjà reçu leur première dose à ce jour en France. 2 millions au Royaume-Uni, où là aussi la flambée épidémique inquiète les autorités. Un habitant sur 50 est porteur du virus. La course également contre la montre est lancée à Londres, Maxence Peignet.
L'ensemble de la population adulte aura la possibilité de recevoir le vaccin d'ici à l'automne. C'est la promesse faite par le ministre britannique de la Santé Matt Hancock ce dimanche. Environ 2 millions de personnes ont déjà reçu leur première dose selon lui, avec une cadence qui atteint désormais 200 000 injections par jour. Parmi les derniers patients en date, on retrouve notamment la reine Elisabeth et le prince Philippe, âgés de 94 et 99 ans. Le gouvernement espère ainsi avoir vacciné 14 millions de personnes à risque avant mi-février. Afin d'accélérer ce déploiement, 7 centres de vaccination de masse vont ouvrir dans les jours qui viennent à travers le Royaume-Uni et l'armée commencera à fournir du personnel pour appuyer leur effort dès lundi. 350 millions de doses ont par ailleurs été commandées aux différents laboratoires, plus qu'il n'en faudrait pour administrer 2 injections à chaque Britannique. Mais en attendant, la chaîne d'approvisionnement est sous pression et des médecins se plaignent déjà de retards de livraison. Selon le gouvernement, il s'agit d'un problème d'offre qui affecte le monde entier. Mais certains professionnels de la santé accusent aussi les autorités sanitaires de ralentir le processus. Ce dimanche, le professeur John Bell, immunologiste de l'université d'Oxford, affirmait que tous les Britanniques pouvaient en théorie être vaccinés en seulement 5 jours si l'on supprimait les délais créés par l'administration.
Le vaccin, enjeu de politique internationale, de diplomatie et d'économie. L'Ukraine, par exemple, est contrainte de se tourner vers le vaccin chinois car elle refuse le russe. Les États-Unis freinent son approvisionnement par Pfizer. Camille Magnard nous en décrit les enjeux dans sa revue de presse internationale juste après ce journal. Aux États-Unis, Donald Trump est à nouveau menacé de destitution. Il doit rendre son siège dans moins de 10 jours. Mais les démocrates ne veulent pas lui laisser de répit 5 jours après l'invasion du Capitole, dont elle tient le président sortant responsable, Nancy Pelosi. La présidente de la Chambre des représentants donne 24 heures au vice-président pour déclencher le 25e amendement qui permet de décréter le président inapte à l'exercice de ses fonctions. Sans quoi elle promet d'engager une procédure de destitution. Le ministre de l'Agriculture est attendu dans le Gers aujourd'hui, après les Landes en fin de semaine, pour venir au chevet des éleveurs de canards frappés par la grippe aviaire. Plus de 600 000 canards ont été abattus en France depuis début décembre. Et cela va continuer, cette épidémie est devenue incontrôlable, car les autorités ont mis trop de temps à réagir, estime Pascal Bernadet. Il est éleveur, maire de Sort en Chalosse dans les Landes. Ces 2600 canards ont été abattus trop tard, car ces 4400 poulets ont été déjà contaminés.
Ça a été crescendo, quoi. Le dimanche, quand c'est alerté, il y en avait 20 et quelques, je ne sais plus exactement, 25 peut-être, voilà. Le lendemain, on est passé à une bonne cinquantaine. Et le surlendemain, là, on est passé à 300 et ce matin, il y en avait 1000. Voilà. Donc le temps qu'ils interviennent, bien sûr, donc le virus il a le temps de se développer, le temps qu'ils interviennent, je pense que le bâtiment soit tout mort. Quoi, voilà. Donc moi, j'avais déjà fait des démarches en tant que maire et par rapport à d'autres éleveurs qui avaient des congélateurs pleins de cadavres pour que les cadavres soient au moins ramassés. Et ça, depuis le 30 décembre, on me répondait, ça va être mis en place. C'est en train de se mettre en place. Et ce matin encore, j'ai téléphoné. On m'a dit, on est dépassé. Voilà. Donc, enfin, aujourd'hui, toujours est-il, nous, on stocke nos poulets dans des big bags, système D. On a cette odeur de décomposition qui débute. Ramasser les cadavres et remettre dans des big bags, voilà, on en est. Notre quotidien, c'est ça, quoi. Donc, c'est vraiment pas plaisant du tout et c'est même démoralisant.
Pascal Bernadet, éleveur de volailles victime de la grippe aviaire dans les Landes, où nous irons à 7h25. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Pas de grand show et de grand rendez-vous à Las Vegas cette année pour le Consumer Electronics Show, le CES, le salon de l'innovation par excellence. Il se tiendra à distance cette année pour cause de pandémie. Une pandémie qui, jusqu'à présent, n'a eu que peu de conséquences sur le secteur du numérique en France, Catherine Pétillon.
Covid ou pas, dans le numérique, les recrutements continuent. L'opération Reconfiner mais recruter, menée par France Digital, affiche plus de 2200 postes à pourvoir dans 150 entreprises. Cela va de la start-up émergente à la licorne. Pendant le confinement du printemps, cette association d'entrepreneurs et d'investisseurs de la tech avait déjà mis en avant 2400 postes. Le secteur se porte bien et résiste d'autant mieux à cette crise qu'elle a développé les usages numériques, notamment dans les domaines de la livraison à domicile, du télétravail, de la santé ou encore des transports, souligne Nicolas Brusson, directeur général de Blablacar.
Cette crise, de manière générale, elle a plutôt accéléré la transition digitale. On le voit dans plein de secteurs, donc ça a plutôt été en moyenne, plutôt bon pour tout ce qui est French Tech et pour tout ce qui est digital. Et finalement, les acteurs plus agiles, avec des modèles plus digitaux, plus en ligne, s'en sortent mieux que les acteurs historiques qui ont typiquement beaucoup plus de coûts fixes, beaucoup plus d'inertie dans le modèle économique. Les financements dans les startups, et là je parle de startups qui sont au début de l'aventure, hein, donc qui font les premières levées de fonds, a continué à fonctionner très très bien
au niveau global et en particulier en France.
Le numérique reste fortement créateur d'emplois. Il représente 20 à 30% des nouveaux emplois nets. Un plan de secours de 4 milliards d'euros a par ailleurs été instauré en mars, rallongé de 600 millions d'euros en juin dernier à destination de la French Tech.
À la conquête de l'océan austral et de ses mystères, 48 scientifiques embarquent aujourd'hui à bord du navire océanographique Marion Dufresne 2 pour explorer l'océan sud-ouest austral au sud de l'île de la Réunion pour récupérer des données afin de comprendre les mécanismes qui permettent de séquestrer le CO2. Catherine Jandel et Hélène Planquette sont chercheuses au laboratoire des sciences de l'environnement marin au CNRS. Elles participent à cette mission et répondent à Véronique Robérotte.
On va quand même regarder l'océan de la surface jusqu'au fond. On va échantillonner à toutes les profondeurs. On va aller jusqu'à 5000 mètres de fond pour justement mieux comprendre comment ce CO2 est séquestré à la surface par la photosynthèse et puis ensuite son export vers le fond des océans. Alors en fait, pour faire la photosynthèse, le phytoplancton a besoin d'éléments nutritifs, des nitrates, des phosphates, des silicates, comme la végétation sur Terre. Il a aussi besoin de vitamines. Et ces vitamines, ce sont les éléments traces que nous regardons. Traces, parce qu'ils sont présents à de très faibles concentrations dans l'océan, mais pourtant ils ont un rôle crucial. Par exemple, le fer, il est présent à de très faibles concentrations, ça revient à chercher environ un trombone dans 30 piscines olympiques. Donc c'est très très peu, et on va chercher cette poussière de fer dans l'océan. Et ce fer, en fait, il est essentiel au phytoplancton pour sa croissance et pour effectuer la photosynthèse. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à lui. On déploie des instruments avec un grand câble. On a 24 bouteilles de prélèvement et on va échantillonner à 24 profondeurs de la surface, donc jusqu'au fond. Ça va nous aider à mieux comprendre comment le CO2 est séquestré dans l'océan, dans cette région du monde. Et les eaux australes, il faut savoir qu'elles absorbent environ 15% des émissions de CO2 produites par les activités humaines. C'est donc des actrices principales dans la régulation de la concentration des gaz à effet de serre et donc sur le climat.
Et la mission va durer 2 mois jusqu'au 8 mars prochain. Et puis on a appris ce matin la mort de Georges Pernoud, présentateur historique de l'émission Thalassa. Georges Pernoud avait 73 ans. La météo, une journée globalement lumineuse, hormis sur l'île de France et les pays de la Loire qui resteront sous les nuages, avec même quelques averses, des températures toujours très contrastées qui iront cet après-midi jusqu'à 5 à Lille et Montpellier, 9 à Brest, 1 à Bourges et Strasbourg, 10 à Nice.
Merci Bénédicte Robin. Dans quelques instants, on va évoquer Donald Trump face aux réseaux sociaux, les plateformes censure ou régulation. Je poserai la question à Maude Kessar, elle est directrice du domaine Espace Euratlantique à l'IRSEM.